c'est Gérard Charlois de la Convention Vie et Nature. Je souhaite réagir à l'accident qui a provoqué la mort d'un automobiliste en Ille-et-Vilaine et qui n'est jamais qu'un accident de plus et un accident de trop provoqué par la chasse. La seule observation que je voudrais faire à ce stade-là, moi qui suis un opposant évidemment à ce loisir, c'est que tout autre groupe humain aurait marqué sa solidarité, sa compassion, son empathie envers la victime, sa famille, ses amis, et un regret vis-à-vis de l'opinion publique. Comment pourrait-il le faire, tout simplement, en demandant à leurs adeptes de cesser le feu, ne serait-ce qu'un dimanche, pour marquer le coup, pour dire qu'ils se sentent quelque part responsables de cette sécurité dont ils invoquent si souvent l'objectif et qu'ils n'atteignent pas. La preuve en est, c'est que presque tous les week-ends, il y a des accidents, tous ne sont pas mortels, mais il y a toujours beaucoup d'accidents de chasse. Voilà. Merci.
Bonjour, la Terre au Carré. Je suis Marie Kosker de l'ONG Action contre la faim. Pour cette deuxième semaine de la COP26, les discussions vont continuer sans les principales et principaux intéressés. Ce sont les communautés les plus impactées, notamment paysannes et paysans, qui n'ont pas pu se déplacer à Glasgow. Je rappelle que la crise climatique est une cause structurelle de la faim dans le monde, faim qui touche jusqu'à 811 millions de personnes. Et ce qui est une injustice fondamentale, c'est que ces personnes les plus impactées sont précisément celles qui ont le moins contribué à la crise climatique. Alors c'est un rappel essentiel en cette deuxième semaine de la COP, puisque vont être abordés les sujets de l'adaptation à la crise climatique et des pertes et dommages. Et concrètement, ça veut dire que de l'argent public va devoir être mis de toute urgence sur la table pour permettre aux communautés les plus impactées de faire face. On demande que 50% de la finance climat soit dédiée à l'adaptation. On demande aussi que cet argent soit fourni sous forme de dons et non de prêts, et finalement qu'il soit disponible et accessible pour les communautés les plus impactées, qui savent quelles sont les solutions d'adaptation qu'elles doivent mettre en place. Et dans le domaine agricole, ça concerne principalement l'agroécologie paysanne, puisque face aux annonces et au greenwashing, nous devons être vigilants et rappeler que les deux mots d'ordre sont justice et action climatique. Je vous souhaite une bonne émission.
Laurie de Rogliano en Corse. Bonjour à tous déjà. Et parler de la terre, oui, il y a des milliers de sujets, enfin au moins un par jour. Tiens, c'est justement ce que vous faites et merci beaucoup. Voilà, je voudrais mettre mon petit grain de sel. Je trouve que le film Microcosmos de Jacques Perrin pourrait être diffusé absolument dans toutes les écoles, à tout âge. Ça provoquerait sans doute des milliers de révélations. Et à propos de révélations, en cette période bénie, entre guillemets, qu'on croit à l'historicité du Christ ou non, je pense que c'était un bon pote de la sobriété heureuse. Alors on peut fêter. Alors bonne fête à tous.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Notre univers est-il beau par hasard? Eh bien, c'est une drôle de question justement à laquelle on va essayer de répondre. Regardez les images de l'univers que nous livrent les télescopes, celles des nébuleuses par exemple, qui sont des pouponnières d'étoiles et dont les formes et les couleurs sont d'une beauté stupéfiante. Eh bien, elles nous livrent une expérience esthétique tout en nous montrant la complexité du cosmos. Et cette origine de la beauté de l'univers, eh bien, c'est une vraie question scientifique. Car comment un univers né d'une explosion, d'un Big Bang, a-t-il pu engendrer le monde si singulier qui nous entoure? Eh bien, cette question ouvre de nombreuses portes et nous allons les franchir avec vous. David Elbaz, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue, vous êtes astrophysicien, vous travaillez au département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique, vous êtes auteur de documentaires et de spectacles et votre actualité, c'est donc la sortie de ce livre, La plus belle ruse de la lumière et si l'univers avait un sens. C'est publié chez Odile Jacob. Le sujet est audacieux puisque la question même du sens de l'univers est rarement évoquée, mais c'est l'occasion de revenir avec vous sur l'histoire de l'univers et sur le rôle particulier de la lumière, ce qui va même nous permettre, on le verra, de parler d'écologie et d'effet de serre. Vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr, sur les réseaux sociaux et sur l'appli France Inter avec vos notes vocales. 14h30, Camille passera au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. COP26 à Glasgow, 9e jour et déjà beaucoup, beaucoup de critiques.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Lucie Sarfati avec Johanna Gabric à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
24 avril 90.
À bord de la navette, 5 astronautes procèdent ce jour-là à la mise en orbite du télescope spatial Hubble. Et depuis, quasiment chaque mois, de nouvelles images spectaculaires ont permis aux astronomes, mais aussi au grand public, de percer les mystères de la vie et de la mort des étoiles. En 1994, Hubble a été braqué vers une portion du ciel apparemment vide. Après plusieurs jours de pause, sa caméra a pu enregistrer les confins de l'univers à 12 milliards d'années-lumière de nous. Des galaxies formées juste après le Big Bang originel. L'instrument a pu nous prouver que l'expansion de l'univers continuera sans fin. A pu vérifier également la théorie d'Einstein sur la propagation de la lumière et les mirages gravitationnels.
Voilà une évocation du télescope spatial Hubble, donc raconté par le journaliste de France Télévisions Patrick Hester. Hubble donc opérationnel en 1990 et qui a joué un rôle justement très important, David Elbaz, dans les images que nous avons reçues de l'univers. Vous qui parlez beaucoup de beauté dans ce livre, on doit aussi ça à ce télescope finalement. Hein.
Oui, tout à fait. Hubble a complètement révolutionné notre image de l'univers en nous présentant des images qui ressemblent à des véritables tableaux et qui sont à la fois vraies d'une certaine manière, parce qu'il nous montre une réalité, et en même temps faux, et qui ont été pour beaucoup travaillés par des artistes astronomes.
Ouais.
Et pour beaucoup de gens, je pense que c'est un rapport différent avec l'univers, et pour nous autres scientifiques, même si nous travaillons sur nos ordinateurs, lorsqu'on voit ces images, ça nous inspire beaucoup, parce que elles nous parlent à travers leurs couleurs et elles se transforment en film.
Donc c'est en ça que c'est une vraie question scientifique, de parler de la beauté de l'univers ?
Alors, la raison pour laquelle la question scientifique est posée de la beauté de l'univers est la suivante. On a un univers qui est né d'un Big Bang, une explosion, et qui, selon la physique, devrait normalement tendre vers toujours plus de désordre. C'est ce qu'on apprend en physique. Et pourtant, il se structure en forme de plus en plus complexe et qui nous paraissent belles.
Vous prenez l'exemple du verre cassé, hein, en fait.
Exactement.
Hein, c'est ça. C'est comme si on voyait un verre se casser devant nous et qu'on le voyait se reconstituer sous nos yeux.
Exactement. Alors en fait, la raison pour laquelle la physique dit que le monde tend vers plus de désordre, c'est exactement cette expérience. Si je prends un verre et que je laisse tomber, il va casser. La probabilité de voir un verre qui va se reconstituer de lui-même est très faible, enfin quasi nulle. Et pourtant, quand on regarde l'univers, on ne voit que des morceaux qui se mettent ensemble et qui fabriquent des verres. Alors on appelle ça des étoiles, des nébuleuses, des planètes, etc. Et donc il y a une contradiction apparente. Cette contradiction apparente, elle trouve sa réponse quand on prend en considération le fait que l'histoire de l'univers a une autre forme de lecture, un autre sens, qui est celui de la prolifération de la lumière.
Oui, alors ça c'est vraiment tout ce que vous nous racontez, voilà. Hein, au fil des pages précisément. Vous arrivez déjà à la conclusion quasiment du livre.
Hein, alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, en tant qu'astrophysicien, moi je suis un collecteur de photons.
Ouais.
C'est-à-dire mon métier, mon quotidien, c'est d'utiliser les images de Hubble, justement cette image profonde avec un grand nombre de galaxies très lointaines. Celui qui a réalisé cette image s'appelle Mark Dickinson, c'est mon collaborateur proche avec qui tous les jours on travaille et on a fait d'autres images comme ça. Mmh. Et ce dont je me suis rendu compte en collectant les photons, c'est qu'il nous parlait. Il nous parlait de là d'où ils viennent, bah bien sûr on décode un langage à partir des longueurs d'onde, etc. Et qu'à chaque fois qu'on décodait le message d'une lumière de différents domaines de longueur d'onde, il nous racontait des verres qui se construisent.
Ouais.
C'est-à-dire une structuration de l'univers. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est cette histoire que nous raconte la lumière.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi justement en couverture de votre livre pour illustrer précisément ce thème à la fois de la beauté de l'univers et de la lumière? Alors,
l'image qu'on voit là, c'est celle que les astronomes du Hubble Heritage Project ont appelée la montagne mystique. Et alors, c'est une image qui justement représente cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a ici une pouponnière d'étoiles, où naissent de nouvelles étoiles, où se passe de l'érosion, donc en quelque sorte c'est un monde qui nous ressemble, qui ressemble à celui de la Terre, et qui est en même temps une forme d'illusion, parce que cette montagne, elle est 30 000 fois moins dense que l'ultra-vide qu'on peut faire sur Terre. Elle mesure 30 000 milliards de kilomètres, et donc c'est quelque chose, si on était sur place, on ne verrait rien, on n'y verrait que du vide. Mais vu de loin, elle ressemble à une montagne. Et ce que disait Emmanuel Kant, c'était que lorsqu'on est face à un paysage comme une montagne ou une cathédrale, notre âme a tendance à vouloir s'élever, notre raison à se dépasser, on a envie d'aller au-delà. Et je pense qu'il y a inconsciemment ou volontairement de la part des astronomes qui ont fait ce genre d'image, choisi ce genre d'orientation, l'idée de nous pousser à aller au-delà de ce qu'on sait, d'aller voir au-delà.
Là encore, l'expérience esthétique, au fond, hein, peut-être à l'origine d'une vraie démarche scientifique.
Mais les images que font les astronomes sont forcément des interprétations. Ça n'existe pas, entre guillemets, une photo sans filtre, si on doit le dire comme ça.
Si, alors la différence, c'est que si on prend une photo sans filtre, qui peut être relativement esthétique, etc., elle est beaucoup moins informative pour nous. Dans l'image ici de la montagne mystique, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a du rouge, ça veut dire que de la lumière a été faite par des étoiles qui sont plus massives que le Soleil, dont l'espérance de vie est de quelques millions d'années, donc elles viennent de naître. Et donc, en regardant cette image, nous, quand on voit du rouge, on sait qu'une étoile vient de naître.
C'est la pouponnière.
C'est la pouponnière.
C'est vraiment ça, ouais.
Et donc, on a un film. C'est pour ça qu'on va utiliser des filtres très étroits pour aller voir ces différents atomes.
Et le bleu ?
Alors, on a du bleu, du vert et du rouge, qui sont l'hydrogène, l'oxygène et le soufre. Et donc, avec les différentes couleurs qui se combinent, on va pouvoir voir là où se trouvent les étoiles, là où elles viennent de naître et là où elles sont en train de naître. C'est comme des chrysalides, et le papillon, quelle étoile, lorsqu'il va naître, va détruire son cocon, et va s'envoler, et va partir. Et ensuite, on verra plus l'endroit d'où elle est née. Donc là, quand on regarde cette montagne-là, on perçoit le moment où elles sont en train de naître. Mais en même temps, c'est un faux. Parce que les couleurs sont artificiellement travaillées, ressemblent au tableau qu'on peut trouver des peintres. D'ailleurs, Elisabeth Kessler, une historienne de l'art, a constaté...
La peinture américaine,
la même peinture américaine du 19e siècle, du Grand Ouest américain. Et en même temps, pour nous, c'est un vrai, dans le sens où il nous parle et il nous transmet l'histoire de la naissance des étoiles.
David Elbaz, ça nous permet justement de retrouver aussi l'histoire de l'univers, hein, parce que c'est le prétexte aussi pour revenir. Alors à quoi ? Aux origines de l'univers ou au commencement de l'univers ? Quel mot il faut employer quand on parle du tout début, justement ?
Alors celui qui a initié l'idée de choisir le mot commencement, c'est l'abbé Georges Lemaître, parce qu'il savait que dans l'idée d'origine, il y avait un piège. C'est-à-dire qu'on est très près de la question de la création, et il savait qu'il y avait un risque de mêler trop près, alors qu'il était religieux. C'est un abbé,
ouais.
Mais la religion et la science. Donc pour l'instant, il s'est dit, voilà, on parle du commencement, même si c'est pas complètement évident, ouais, de savoir ce que ça veut dire le commencement.
Alors ça fait partie justement des personnalités qu'on croise au fil de la lecture de votre ouvrage. Georges Lemaître, abbé, vous le disiez, belge, hein, ouais, qui a joué un rôle fondamental justement dans la théorie du Big Bang. Et on écoute un extrait de ce témoignage du professeur Dominique Lambert, qui est un des grands spécialistes de Georges Lemaître. Il est docteur en philosophie et en physique.
Georges Lemaître, en 1927, a été le premier qui a expliqué ce phénomène que les astronomes commençaient à découvrir dans les années 20, qui est la fuite des galaxies, qu'on appelait encore nébuleuses à l'époque, galaxies lointaines, dans toutes les directions, avec des vitesses proportionnelles à leur éloignement. Et on ne comprenait pas cette grande chorégraphie des nébuleuses dans l'espace. Et Georges Lemaître a été le premier à expliquer, en 1927, utilisant la relativité d'Einstein et faisant le lien avec les observations, en disant, dans le fond, ce ne sont pas les galaxies qui bougent, c'est plutôt l'univers qui gonfle et qui éloigne les galaxies qui sont, on pourrait dire, fixées sur l'univers. Donc, on pourrait dire, Lemaître est le premier à avoir introduit l'idée d'une historicité dans l'univers. L'univers a une histoire, il n'est pas le même autrefois que demain, et beaucoup de gens résistaient à cette idée-là.
Voilà. Einstein lui-même résistait à cette idée, d'ailleurs, David Elbaz. C'est ça qui est incroyable. Vous le racontez, hein. Il rencontre Einstein en 27. D'ailleurs, Einstein a des mots peu flatteurs pour sa physique, hein.
Exactement.
Et alors, il a osé le mettre, franchir un pas que Einstein lui-même n'avait pas osé franchir.
C'est ça qui est dingue. C'est qu'Einstein, pour nous, le plus grand génie, a rencontré ce que Bachelard appellerait un obstacle épistémologique, parce qu'il savait que notre galaxie, pour lui, l'univers était réduit à notre galaxie, avec des étoiles qui étaient apparemment fixes. Et donc, l'idée que l'univers puisse avoir une expansion, une histoire, etc., c'était contradictoire à ce qu'il voyait. Mais surtout, il lui a dit, parce que Lemaître était habillé en abbé quand il l'a rencontré en octobre 1927. Il va le voir, il lui dit, avez-vous lu l'article que je vous ai envoyé ? Einstein lui dit, oui, je l'ai lu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vos mathématiques sont parfaites, mais le résultat est abominable. Ça rappelle trop la création. Et là, on voit quelque chose qui, lorsqu'on se pose la question du sens de l'histoire de l'univers, inquiète les scientifiques, même Einstein.
Ouais.
Parce que lorsqu'on dit que l'univers a une histoire, c'est énorme.
Justement, à ce sujet, Jean-Christophe nous écrit par mail, David Elbaz. Le sujet du jour va peut-être répondre à une question que je me pose depuis longtemps. Quel est le sens de tout cela? Quel est le grand dessein de l'univers? Même si on ne peut pas lui prêter une pensée propre, il précise, je ne crois pas à une intervention divine, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, c'est le sous-titre de votre livre, et oui, c'est assez gonflé d'ailleurs de poser la question comme ça, de le mettre dans un titre. Et
oui,
si l'univers avait un sens?
Oui. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris ce risque, c'est parce que je pense que on s'interdit peut-être un peu trop de se poser cette question, et ça aboutit à certaines fois au constat suivant. J'ai donné une conférence hier, et il y a quelqu'un, un mathématicien, m'a dit, voilà, parmi mon entourage, il y a des chercheurs en biologie ou en médecine qui disent que pour eux, la vie est différente de la physique. La physique va vers le désordre, la vie va vers l'ordre, et donc c'est deux choses différentes. Si on dit ça, que la vie ne s'inscrit pas dans le sens de l'histoire de l'univers, on ouvre la porte à une rupture fondamentale qui va faire qu'on va faire appel au miracle, etc. Alors que ce que j'essaye de dire dans cette histoire du sens, c'est que de la même manière que l'eau coule le long d'une pente du haut vers le bas, et donc elle a un sens, le trajet qu'elle va suivre du hasard, donc c'est le hasard et la nécessité de Monod. Mais maintenant, pourquoi y a-t-il une force de gravité qui fait qu'on va du haut en bas? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la vie, et c'est ça qui est pour moi très important dans ce livre, s'inscrit dans une logique qui a commencé à 13,8 milliards d'années, n'est pas du tout une rupture. Cette logique, par exemple, lorsque les bactéries prolifèrent, elles ne font que reproduire un mécanisme de prolifération de la lumière qui n'a cessé depuis la naissance du premier atome, la première molécule, la première étoile, galaxie, etc.
Le monde l'autoréplication, en fait,
l'autoréplication permanente de la lumière.
Et donc, ça, on peut se poser la question du sens sans interprétation religieuse derrière.
Exactement. Je pense même que la science offre la liberté à l'être humain d'avoir de choisir s'il veut ou pas croire. Je pense que ça serait un piège, par contre, de rentrer dans le syncrétisme qui consisterait à dire on a la preuve de quelque chose d'autre, du pourquoi.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. Le conte avait commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller, où l'on court, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais. C'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours. Pour toujours et à jamais. Mon amour, moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours et à jamais.
Sorry Angel, la version d'Alex Baupin à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Au début du XXe siècle, la plupart des scientifiques pensaient que l'univers était fixe. Et qu'il avait toujours été ainsi. Mmh. Et puis, des astronomes ont remarqué que les galaxies, d'immenses groupes d'étoiles, s'éloignaient les unes des autres. Dans les années 1920, l'Américain Hubble et le Belge Lemaître ont proposé la théorie d'un univers en expansion. Selon celle-ci, l'espace serait comme un ballon en train de grossir. Il devait donc bien avoir commencé quelque part. Pour se moquer de cette idée, le physicien britannique Fred Hoyle l'a surnommé Big Bang. Or, depuis, les observations des scientifiques ont confirmé la théorie. Et le nom est resté.
Voilà David Elbaz, notre invité, avec ce livre La plus belle ruse de la lumière. Et pendant que le ballon grossit, l'univers recolle les morceaux, hein, si on voulait résumer vraiment très grossièrement votre livre. C'est exactement ce que vous nous racontez. Hein.
Exactement, exactement. Ouais. S'il n'y avait pas eu d'expansion de l'univers, on ne pourrait pas, tous ces mécanismes de formation de structure. C'est l'expansion, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a converti la vitesse d'expansion en énergie gravitationnelle. Et toute l'histoire de l'univers, c'est la conversion de cette énergie en grains de lumière et en structures de plus en plus complexes.
Justement, le rôle de la lumière, il est absolument fondamental.
Il est fondamental.
De l'univers.
Oui, si je prends une pomme qui tombe d'un arbre, au moment où elle se décroche, elle prend de la vitesse et elle tombe vers la Terre. Pourtant, elle s'arrête quand elle tombe au sol. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'arrête? C'est parce que toute sa vitesse, toute son énergie est transformée en lumière infrarouge. Et donc, la lumière emporte avec elle l'agitation de la matière. C'est elle qui calme la matière, qui l'apaise et qui lui permet de prendre forme. Si la lumière n'emportait pas avec elle l'agitation de la matière depuis l'explosion du Big Bang, aucune forme n'existerait dans l'univers.
Donc la vie même sur Terre, c'est aussi ça finalement, ça s'inscrit dans ce prolongement de toute cette dynamique là.
Alors c'est ça effectivement la clé qui est pour moi assez intéressante, c'est que il y a 13,8 milliards d'années naissaient les premières particules, puis les atomes, les molécules, et à chaque fois qu'une nouvelle structure est apparue, on s'aperçoit qu'elle rend encore plus efficace la multiplication des particules de lumière. Et la vie est plus efficace qu'une étoile à produire de la lumière. Et ça c'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister, qui est un peu troublant.
Ah ben moi j'ai adoré ça, parce que vous nous dites même qu'on produit nous-mêmes de la lumière.
Nous produisons
de la lumière.
Produit de la lumière. Exactement.
Mais bien sûr Mathieu, vous produisez de la lumière.
Mais on le savait pas.
Tous les matins vous m'éblouissez.
Non, je t'ai plus. Mais même vous Camille, vous produisez de la lumière.
Comment on produit de la lumière?
Déjà, parce que nous sommes des machines à transformer des macromolécules en chaleur et en lumière. Et en fait tout notre processus vital, mais nous, le serpent, le poulet, tous les animaux font de la lumière. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si je prends un gramme de soleil et un gramme d'être humain, lequel produit le plus de lumière par année, etc. Ouais. Ben, on va s'apercevoir que un gramme d'être humain, d'être vivant, produit 200 000 fois plus de lumière qu'un gramme de soleil.
Pourquoi?
Parce que le soleil, il fait beaucoup de lumière, mais il est aussi énorme. Et par rapport à sa masse, il a une masse de 2 × 10⁻³ kg, il fait 3,8 × 10⁻²⁶ watts, c'est des nombres énormes. Et quand on ramène ça par masse, par kilogramme de soleil, le processus global est inefficace. C'est seulement tout au cœur du soleil qu'il y a des réactions nucléaires. Ça fait chauffer toute l'étoile, mais le mécanisme est beaucoup moins efficace que nous autres vivants. En d'autres termes, si vous étiez un architecte qui veut fabriquer le plus possible de lumière et que vous aviez le choix entre mettre la matière dans une étoile ou dans des êtres vivants, ouais, vous favoriseriez les êtres vivants. C'est pourquoi la vie s'inscrit dans la logique du sens de l'histoire de l'univers, n'est pas une rupture. Elle est même la plus belle ruse de la lumière pour se multiplier.
D'où le titre du
livre.
Parce que ça peut paraître très énigmatique aussi, la ruse, en quoi la lumière est rusée, par exemple.
Alors voilà, j'ai repris la phrase de Baudelaire qui dit « N'oubliez jamais que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas ». Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on a complètement fait abstraction de la lumière. Et quand on raconte, en physique, l'histoire, qu'est-ce qui justifie le cours du temps, vous savez qu'en mécanique quantique et en théorie de la relativité, le cours du temps n'existe pas. Or, c'est les deux théories qu'on a pour l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et donc, qu'est-ce qui nous reste pour expliquer le cours du temps? Le fait que les verres se cassent. Et donc, c'est la seule chose, c'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. On va vers toujours plus d'entropie. Et c'est expliqué généralement comme toujours plus de désordre, de morceaux d'air. Eh bien, là, quand on prend en compte la lumière, on se rend compte que non, c'est en s'organisant que la matière fait plus de lumière. Et donc, c'est une forme... Pourquoi je dis ruse? Parce que quelque part, si cette lumière, si elle n'avait pas la matière, elle ne pourrait pas se multiplier. Je ne dis pas qu'elle est consciente, mais c'est ça le message, c'est que la lumière se multiplie grâce à la matière et par l'organisation de la vie.
Et on peut le quantifier, la lumière que nous produisons en tant qu'être humain, chaque année par exemple, c'est quantifiable.
Tout à fait.
Et c'est quoi alors?
Alors, les chiffres pour nous...
C'est 120 watts, je crois.
Alors, nous on fait 120 watts, voilà. Ouais. Nous on fait 120 watts par corps humain, par kilogramme, pour vous donner une comparaison avec le soleil, par kilogramme un être humain fait 2 watts.
Ouais.
D'accord. Un être humain de 60 kilos. Bon, moi j'en fais plus. 2 watts. Eh bien, le soleil, par kilogramme, donc 2 watts pour nous, combien fait-il? Le soleil fait 0,2 milliwatts par kilogramme. Il en fait 10 000 fois moins. D'accord? C'est incroyable. Et en plus, nous rayonnons des photons infrarouges qui sont donc chacun à moins d'énergie, donc ils sont beaucoup plus nombreux. Donc on fait 200 000 fois plus de photons.
Mais est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose de ça ou pas? Nous sommes dans une émission d'écologie quand même. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour faire une énergie quelconque?
Alors justement, c'est parce que on fabrique de la lumière que finalement on répond à notre organisation, notre structure, le code génétique par exemple. En 1955, il y a un physicien, Harold Moravitz, qui s'est posé la question suivante. Est-ce qu'une cellule vivante, lorsque je fabrique une cellule vivante, est-ce que je fais de l'information ou est-ce que je fais du désordre, en quelque sorte ? Le code génétique, l'organisation des cellules, le vivant semble être l'essence même de l'information. Il fait le calcul et il se rend compte qu'il y a comme quantité d'information dans une bactérie E. coli 6 gigaoctets, donc à peu près 6000 photos, d'accord. Mais que pour produire cette bactérie, elle produit 3 fois plus de désordre et de photons. Donc en fait, la vie, pour le dire un peu vulgairement...
Oui, dites-le vulgairement s'il vous plaît, qu'on vous suive bien.
La vie, c'est ce qui fout le plus le bordel dans le monde qu'on connaisse aujourd'hui.
Ah ben voilà, ça c'est clair au moins.
c'est pourquoi résumé. Quand on cherche de la vie sur d'autres planètes, on ne cherche plus de l'ozone, de l'oxygène, on cherche le bordel.
Et la complexité.
La complexité. On cherche des déséquilibres chimiques dans les rapports de molécules, etc. C'est une autre façon de dire le bordel.
On l'a pas encore trouvé. Hein. Camille, il y a des questions des auditeurs.
Karim demande si l'univers est cyclique avec une expansion suivie d'une compression, suivie d'une expansion, etc., etc.
Alors c'est une très bonne question qui, à l'heure actuelle, on n'a pas la réponse définitive parce qu'elle dépend de la nature de ce qui contrôle aujourd'hui l'expansion de l'univers, qui est une forme d'énergie de nature inconnue qu'on appelle énergie noire. Et dont l'étude va être permise à partir du mois de février 2023. On va envoyer un satellite qui s'appelle Euclide, qui va essayer de caractériser cette énergie. Aujourd'hui, on pense que l'univers va continuer à s'étendre indéfiniment. Mais comme on ne connaît pas la nature, ni de cette matière noire qui est dans l'univers et l'énergie noire, ça serait un peu prématuré de dire qu'on connaît l'avenir de l'univers.
David Elbaz, vous êtes notre invité cet après-midi. La plus belle ruse de la lumière, c'est chez Odile Jacob.
France Inter. La Terre au carré.
Et c'est le moment de retrouver la rediffusion de Camille Passauvert du 8 novembre dernier.
Et on est au 9e jour de la COP26 à Glasgow en Écosse, annoncée comme la plus importante depuis celle de Paris en 2015. Mais ça, à la hauteur des ambitions ou pas, on ne le saura qu'au moment de la clôture vendredi. Certains, cela dit, ont déjà tranché, comme Greta Thunberg.
It is not a secret that COP26...
Ce n'est pas un secret, la COP26 est un échec, coup sec de la militante suédoise en marge de l'événement et après des manifestations très denses, écoutez plutôt le son de la rue. Voilà, des milliers de personnes vendredi pour faire pression sur les pays réunis, hein, collés au basque des dirigeants qui ont pourtant affiché de belles intentions comme Emmanuel Macron, c'était il y a pile une semaine.
La clé pour les 15 prochains jours ici, dans notre COP, et que les plus gros émetteurs, dont les stratégies nationales ne sont pas conformes à notre objectif des 1,5%, des 1,5 degrés, pardon, c'est que ces plus gros émetteurs rehaussent leur ambition dans les 15 jours qui viennent.
Pour tenter donc de limiter la hausse à 1,5 degré et non pourcent, n'est-ce pas? Mais Marie Coé, porte-parole de l'association de désobéissance civile à ANV COP21, présente à Glasgow la semaine dernière, a été conquise, figurez-vous.
Emmanuel Macron, il a fait un discours qui était vraiment magnifique, que nous, on aurait pu écrire en tant que militant climat. Enfin, dans le contenu, c'était parfait. Donc vraiment, une posture de champion.
Et vous sentez, bien sûr, arriver le mai, hein?
Mais à la COP, il est juste pas à la hauteur, il est complètement à rebours de l'histoire. La France a pas du tout rejoint des coalitions ambitieuses, fait de grandes annonces sur sa stratégie climat, on est un peu sur un maintien du statu quo, et en fait sur un grand discours vide.
Voilà, d'autres associations parlent du service minimum de la part de la France parce qu'elle ne fait pas partie, par exemple, des 19 pays qui se sont engagés jeudi à cesser le financement de projets gaz et pétrole à l'étranger d'ici 2022, contrairement aux États-Unis à qui elle fait la leçon, ou au Canada. Elle préfère s'en tenir à son propre agenda, à savoir financer le pétrole jusqu'à 2025, le gaz jusqu'à 2035, avec même une demande en cours auprès de Bruxelles, inscrire le gaz dans la catégorie énergie verte au niveau européen. Alors j'ai appelé Marine Pouget à Glasgow, elle est responsable gouvernance internationale au réseau Action Climat et le gaz classé énergie verte, comment dire, un bel oxymore.
Le gaz est une énergie fossile, c'est une énergie qui, si on continue de l'utiliser, on ne pourra pas respecter l'accord de Paris, C'est pas acceptable, c'est pour ça qu'on dénonce cette action de double discours.
Mais il n'y a pas que la France qui est pointée du doigt par les ONG, même si elle a un statut particulier, une sorte d'exemplarité à avoir, puisqu'elle est garante de l'accord de Paris. Donc il n'y a pas qu'elle, Greta Thunberg parle d'échec, parce que, à part la Gambie ou le Costa Rica, personne n'est à jour sur ses engagements et les émissions mondiales de CO2 continuent d'augmenter. Elles rebondissent même, plus 5% niveau d'avant Covid atteint, en raison en particulier du recours accru au charbon en Chine et en Inde, pendant que ça baisse côté États-Unis et Europe, faut quand même le dire. Mais l'ONU rappelait juste avant la COP qu'au rythme où on va, eh ben on sera à plus 16% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, donc plus 2,7 degrés en 2100. La paléoclimatologue et coprésidente du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, également à Glasgow, fait un nouveau constat un peu difficile.
Pour la trajectoire à 1,5 degré, il faudrait qu'il y ait une diminution très forte des émissions, en particulier de CO2, de l'ordre de 45% entre 2010 et 2030. Il n'y a rien qui va dans ce sens-là.
Rien qui va dans ce sens-là à la COP, évidemment. D'autant, tenez-vous bien, que la BBC affirme ce matin que la plus grosse délégation sur place est celle de qui, devinez ? Celle des représentants des énergies fossiles. Ils ont compté 503 représentants, quand la plus grosse délégation d'État, le Brésil, compte 479 délégués à titre de comparaison. 503, 479 pour la plus grande des États. Voilà le poids des lobbies à l'intérieur, même de cette COP26. C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, et c'est Camille Passauvert avec tous ces effets spéciaux que vous pouvez réécouter sur France.
J'ai complètement loupé mon effet spécial.
Ah non, c'était très bien le petit coup de fil tout à l'heure.
David Elbaz, vous, en tant qu'astrophysicien qui avez les yeux dans l'univers et dans les étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, est-ce que ce qui se passe sur Terre aujourd'hui, évidemment, vous concerne et peut avoir, je ne sais pas, une influence sur le reste de l'univers ?
Oui, alors en fait, ça nous concerne au premier plan parce qu'en fait, nous, on utilise l'univers comme une loupe pour voir ce qui est sur Terre. Les lois qui sont sur Terre, quand je parle de prolifération de la lumière, c'est exactement ça l'effet du réchauffement climatique. C'est que la lumière qui vient du Soleil dans le domaine visible, elle est rayonnée par la Terre par un facteur 20. Il y a 20 photons pour chacun des photons qui arrivent, et quand ils arrivent dans l'infrarouge, dans l'atmosphère, ils sont réfléchis, ils ne peuvent plus repartir. Et donc ils se multiplient, et donc ce qu'on appelle l'entropie, pour le coup, augmente, et ça crée un dérèglement climatique. Cette idée de se poser des questions à l'échelle globale, ça c'est le cœur du métier de l'astrophysique. Et donc, pour nous, c'est une discussion qu'on a au quotidien chez nous, même si ce qu'on appelle l'univers, la Terre en fait partie. Alors, pour moi, je pense qu'on est confronté à un problème de civilisation et qui fait que lorsqu'un président d'un pays commence à prétendre vouloir changer quelque chose tout seul, on voit bien qu'il est dans une impasse totale. C'est complètement à une autre échelle. Alors, d'un côté, on fait le constat entre la pandémie, entre le réchauffement climatique, la chute de la biodiversité, la pollution, l'épuisement des réserves naturelles, qu'on a des problèmes à l'échelle planétaire qui concernent l'humanité. Et là, je voudrais juste dire deux petites choses. C'est que ces problèmes, ils demandent une réaction majeure, fondamentale, instantanée maintenant. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, je fais le constat suivant. Pour la première fois, les Nations Unies prévoient une stabilisation de la population mondiale autour de 10 milliards dans quelques dizaines d'années. C'est la première fois. Or, quand un biosystème atteint sa taille adulte, il devient responsable. Donc on a des problèmes d'adultes à l'échelle planétaire au moment où on devient adulte en tant qu'humanité. C'est une intéressante coïncidence qui montre qu'il est temps d'agir à une autre échelle. Et la dernière chose, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on dispose d'un moyen de communication instantanée à l'échelle planétaire, on appelle Internet. Donc mon espoir, c'est que j'ai toujours rêvé d'une, ça va paraître bizarre, hein, qu'une météorite fonce sur la Terre pour nous menacer. Quand je me rappelais quand il y avait les conflits, les Russes, les Américains, etc. Chaque fois que je voyais un traumatisme, une guerre, je me disais s'il y avait une météorite, les gens arrêteraient de se tirer dessus et peut-être se serraient les coudes. Je suis très naïf, mais j'ai tendance à penser qu'on est face à un nécessaire changement majeur, un changement de paradigme majeur qui rappelle ce qu'on a vécu en physique, avec une drôle de coïncidence, celle que j'ai citée, et qu'en physique, à chaque fois qu'il y a un changement de paradigme, il y a eu des coïncidences de même type. Et je pense qu'il est important de dire aux jeunes générations que, bien sûr, il faut agir tout de suite, mais que une forme d'éco-anxiété inhibitrice n'est pas nécessairement la meilleure solution. Il faut aussi se dire qu'on va construire ensemble. Et que quelque part, l'humanité qu'on avait avant ces menaces-là, c'était pas non plus terrible au niveau inégalité humaine, etc., etc. Donc, quelque part, il y a vraiment un besoin de construire, et on a peut-être maintenant, c'est peut-être maintenant le moment de le faire, et donc j'ai de l'espoir.
Enfin, il faut s'épargner la météorite quand même, parce que le résultat, il pourrait être totalement cataclysmique, on le sait.
Alors,
bien.
Si on avait une météorite aujourd'hui, on serait foutu.
Voilà, c'est ça. Hein. Donc on ne peut pas vraiment le souhaiter quand même.
Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais sensible à cette dimension planétaire nécessaire. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, les problèmes qu'on a à l'échelle planétaire sont fondamentaux pour réveiller en nous un véritable une réaction qui est nécessaire pour un vrai changement de civilisation. Alors après, comment le faire ? Il y a tout un tas de choses qui se font aujourd'hui, mais je pense que peut-être que le monde de demain aura peut-être plus de sens que celui d'aujourd'hui.
Allez, David Elbaz, on poursuit la discussion ensemble dans un instant autour de ce livre, La plus belle ruse de la lumière, c'est chez Odile Jacob.
Sur France Inter, une rediffusion de La Terre au Carré.
Avec Walking at a Downtown Pace à l'instant.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
L'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent, ce qui veut dire que l'univers se refroidit. Ça, c'est le passé, c'est quelque chose de bien établi. Mais quoi pour l'avenir ? Est-ce qu'il va continuer à se refroidir indéfiniment, c'est-à-dire que les galaxies vont s'éloigner de plus en plus et que nous allons aller vers des températures extrêmement faibles, ce que les Américains appellent « le big chill », c'est-à-dire le gel? Ou bien est-ce que après un certain temps, les galaxies, à l'image du caillou que vous lancez et qui revient sur lui-même, est-ce que les galaxies vont cesser de s'éloigner et revenir sur elles-mêmes? Et là, ça aura pour effet que la température qui était décroissante va remonter vers le Big Bang, ce que les Américains, dans leur langage imagé, appellent le Big Crunch.
Et la voix d'Hubert Reeves, rien que pour le plaisir, même si on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, de l'expansion et des différentes hypothèses, bon, bah, c'est intéressant de soulever le problème quand même et de voir quels sont les scénarios possibles. Hein.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'histoire de la lumière s'inscrit dans cette expansion. Par exemple, une des grandes énigmes, c'est, on parlait tout à l'heure de la matière noire. Bon, la matière noire, c'est quelque chose qui fait que les structures se forment, et sans elle, les structures ne se formeraient pas. Et donc, même si elle ne fait pas lumière, elle participe à la création de la lumière. L'expansion de l'univers, j'ai dit deux mots tout à l'heure, mais je le redis, c'est que le plus probable, effectivement, c'est qu'on aille vers le Big Chill. C'est ce qu'a dit Hubert. Mais c'est déjà arrivé une fois que l'univers est une expansion accélérée. juste après le Big Bang. On appelait ça l'inflation primordiale. Et maintenant, on a une nouvelle inflation. La première a fait plusieurs dizaines de fois un facteur 2 d'expansion. Celle dans laquelle on est, qui a commencé il y a 6,5 milliards d'années, n'a même pas fait encore un facteur 2. Ce qui va se passer quand elle aura fait un certain nombre de facteurs 2, on ne le sait pas. Est-ce qu'on n'est pas au cœur d'un nouveau Big Bang qui pourra créer autre chose? On ne le sait pas.
Le ballon va exploser, quoi.
Exactement, tout est possible. Et donc, il y a vraiment un enjeu.
Et c'est quoi l'énergie, le moteur de cette expansion alors, et de cette accélération?
Alors justement, à dessein, quand on dit noir, matière noire, c'est qu'on n'a pas la réponse.
Ouais, c'est le mystère absolu.
C'est le mystère absolu. Ouais, alors après, on peut parler pendant des heures des possibles réponses à cette question. Mais la plus simple des réponses, c'est qu'on ne sait pas.
Bon, mais très bien. Vous en sortez bien. Moi, c'est court.
Julien nous écrit, votre invité parle beaucoup de lumière, mais c'est quoi la lumière? Et j'ajoute une question de Jacques sur franceinter.fr. Je ne suis probablement pas une lumière, mais serait-il possible de préciser ce qu'est l'autoréplication de la lumière? Alors d'abord, qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que l'autoréplication en deux?
Merci beaucoup pour ces deux questions, vraiment assez importantes. Alors, la première, c'est... ce que j'appelle ici, c'est vrai que pour nous, la lumière, c'est notre ampoule qui fait de la lumière visible. Nos yeux se sont adaptés à la lumière visible, la lumière qui vient du soleil. Mais une étoile qui est, disons, trois fois moins massive que le soleil va rayonner plus dans l'infrarouge. Et c'est une forme de lumière parce que ce sont des particules de lumière, les photons, mais qui sont de la lumière invisible, qui a été découvert en février 1800 par William Herschel, une forme de ce qu'il appelait, lui, des rayons calorifiques. Et puis, si on va maintenant dans les étoiles beaucoup plus massives, elles vont rayonner principalement dans l'ultraviolet, qui est une autre forme de lumière, mais qui est une lumière invisible. Alors nous, on appelle ça lumière parce que ce sont toujours des particules de lumière qu'on appelle les photons. Mais ça contient le visible, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, l'infrarouge. Donc toute cette palette-là fait partie de ce que j'appelle la lumière qui sculpte la matière. La deuxième question, c'était
l'autoréplication
de la lumière. Alors, imaginez que au tout début de l'histoire de l'univers, on avait un certain nombre de photons. Voilà, imaginons 18. C'était pas ça, mais 18. Et les photons ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Par contre, grâce aux structures qui sont nées de la lumière peut donner naissance à de la matière et de l'antimatière. Pour une raison qu'on ne comprend pas, il y a une dissymétrie qui fait que la matière l'a emportée. Et donc, toutes les étapes qui ont suivi de structuration de l'univers, vont multiplier le nombre de photons qui vont, en quelque sorte, proliférer, comme les bactéries qui se multiplient. Mais sauf que la différence, effectivement, c'est que ce n'est pas un photon qui se multiplie en deux, c'est un photon, par exemple, qui arrive sur un grain de poussière interstellaire, qui est absorbé, un photon ultraviolet, qui est absorbé, et qui est rayonné en 500 photons infrarouges. Donc, en fait, c'est ça que j'appelle la prolifération, c'est qu'un photon est multiplié par 500 à chaque fois qu'il croise un grain de poussière.
Et c'est Einstein qui a défini la vitesse de la lumière, on peut toujours le rappeler quand même.
Voilà, tout à fait. Ça, c'était... Maxwell a découvert que le rayonnement le champ électromagnétique était véhiculé à une certaine vitesse constante, qui se trouvait être la vitesse de la lumière, et qui se trouvait être des particules. Einstein n'a pas eu le prix Nobel pour la relativité, mais pour avoir découvert les bases de la physique quantique et du fait que la lumière est quantifiée dans ces particules que sont les photons. Et donc, c'est ça qu'on appelle la lumière, finalement, c'est ces petites particules, c'est ces morceaux de verre, en quelque sorte. On parlait du verre tout à l'heure, mais on peut casser un morceau de verre en plein de petits bouts, qui sont des photons.
Parce que ils vont toujours se balader à la même vitesse dans le vide.
Et ils vont toujours se balader à la même vitesse dans le vide.
300 000 km par seconde.
Ce qui fait qu'en une année, la lumière parcourt 10 000 milliards de kilomètres.
Ouais. Et pour nous parvenir du soleil, elle met combien de temps alors dans ce studio?
Alors elle met 8 minutes.
Ouais.
Alors ça, ce qui est troublant, c'est que si...
Dans ce studio, elle n'arrive pas, on est d'accord?
Pour nous parvenir du soleil...
La lumière visible ne nous parvient pas. Après, effectivement, si je sors de ce studio et que je mets la main, je vais retrouver un peu toutes sortes. Par contre, si je pouvais éteindre toutes les étoiles du ciel en claquant les doigts, eh bien, il faut 8 minutes pour savoir si le soleil a été éteint, il faut 4 ans pour la plus proche étoile, et très vite, on s'apercevra qu'en l'espace d'une vie entière, on ne verra quasiment aucune étoile s'éteindre. Toutes les étoiles sont toujours vivantes et elles sont tellement loin qu'il faudrait des milliers d'années pour voir qu'elles se sont éteintes.
Et s'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie?
Alors oui, effectivement, la vie a besoin de la lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière nourrit les plantes, qui donne aux plantes... Alors c'est ça, pour moi, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est que la différence qu'il y a entre une plante et nous, c'est que la plante utilise la chlorophylle et nous, on utilise l'hémoglobine, d'accord? La chlorophylle pour transformer l'énergie de... Or, la chlorophylle, si vous regardez sa structure, c'est une sorte de beignet avec au milieu un atome de magnésium. Et l'hémoglobine, c'est fait de beignet 4, mais le même type de beignet, on appelle ça M, la molécule. Et à la place du magnésium, vous mettez un atome de fer. Vous prenez un atome de magnésium, un seul, vous le remplacez par un atome de fer qui a une affinité pour l'oxygène, et vous passez du végétal à l'animal. ça, j'ai trouvé que le rôle du fer dans cette histoire, il fallait le faire.
C'est ça, c'était de le dire. Et c'est une particule que vous aimez beaucoup, en tout cas.
J'adore.
Un atome,
oui, parce qu'il a un rôle extraordinaire, le fer.
Mais donc, plus de lumière, plus de vie, et plus de vie, plus de lumière?
Non. Alors, effectivement, c'est une très bonne question que vous posez. Ce n'est pas parce que la vie est ce qui permet à la matière de faire le plus efficacement possible de la lumière que ça veut dire que la vie a été créée partout dans l'univers. Parce qu'effectivement, on pourrait toujours avoir un monde où il n'y a pas de vie. Néanmoins, je pense que ce principe-là qui fait que la vie répond le mieux à la propension de l'univers, à cette propension à faire de l'entropie via la lumière, donne à penser que la vie existe ailleurs dans l'univers. Je sais que j'ai des collègues qui disent que les conditions d'apparition de la vie sur Terre sont tellement hasardeuses qu'elle n'a pas dû apparaître ailleurs. Mais moi, je pense que le fait que la vie réponde à cette propension de l'univers donne à penser que la vie existe un peu partout dans l'univers.
Donc ce serait quelque chose de très banal, selon vous, finalement ?
À mon sens, c'est banal dans le sens où elle s'inscrit complètement dans la logique de l'évolution naturelle de l'univers.
Et donc, le projet aussi de ce livre, c'est ça, c'est de partir vraiment des origines, oui, ou du commencement, comme on veut,
hein,
pour arriver jusqu'à la vie sur Terre aujourd'hui, qui est finalement quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Une des formes les plus complexes qui soient ?
Oui, écoutez, vous prenez votre petit doigt, il est plus complexe que tout ce qu'on connaît dans l'univers.
Ouais.
C'est incroyable. La vie est beaucoup plus complexe, et en ce sens qu'elle est... Et par rapport à ce que je viens de dire, d'ailleurs, il y a un biophysicien qui s'appelle Jeremy Englund, du MIT, qui a publié il y a quelques années un article où il dit que la vie répond tellement bien à la propension de l'univers à faire de l'entropie que si vous preniez des atomes, vous leur donniez l'énergie, vous attendez un certain temps, ils feront toujours de la vie.
Ouais.
Donc, il pousse un peu peut-être le bouchon, mais c'est pour vous dire à quel point la vie s'inscrit dans la logique de l'histoire de l'univers.
Et donc, notre petit doigt est la chose la plus complexe de l'univers. Voilà.
Plus complexe que toutes les étoiles et les galaxies qu'on connaît.
Gecko nous envoie un message, le pseudonyme Gecko. Formidable sujet de réflexion. Finalement, c'est presque philosophique, tout votre travail, là, David Elbaz.
Alors, je pense que oui, parce qu'on a une responsabilité lorsqu'on présente la science au grand public, c'est qu'implicitement on donne des messages philosophiques. Si je vous disais, le monde tend vers toujours plus de chaos et de désordre, l'humanité finalement et l'homme ne fait qu'accélérer ça, même Lévi-Strauss avait dit que les sociétés modernes sont des sociétés chaudes qui créent de l'entropie, du désordre, il faut les éviter, il faut des sociétés primitives. Si je vous dis que quand les êtres humains se réunissent, ils foutent la merde, et que le monde est condamné au chaos, et que de toute façon, ce qui nous attend, c'est la mort froide de l'univers...
C'est pas très vendeur.
Quand vous l'ouvrez le matin, vous êtes angoissé.
Oui, c'est sûr.
Et si je vous dis maintenant que depuis 13,8 milliards d'années, l'univers ne cesse de construire des formes de plus en plus belles et complexes, et que nous sommes l'aboutissement de cette... Nous sommes la vie. Nous sommes inscrits dans cette histoire-là, et qu'on a une responsabilité de s'inscrire dans cette logique-là, à nous aussi participer à ça, en créant ensemble, ça donne plus envie, même si c'est la même histoire.
Voilà, c'est un livre pour nous faire du bien,
oui,
donc en ces temps compliqués, David Elbaz. Il y a encore des questions pour vous dans un instant.
Mondos et billets de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne. Main tendue, genou fange. Ne prends pas garde à ma mise, et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine, et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdaient, cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur, les soirs de première.
Comme si l'on pleuvait.
Nuée de diamants, poème posé sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des soupirants et des atours en décédé si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
La lune, mignonne, tout m'était dû. Par un revers de fortune, voilà que j'ai tout perdu. De mémoire d'un mot d'apôtre, qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Laïa laïa, grands décédés si tu savais.
Comme si l'on pleuvait.
T'es présent chaque jour, plus que tes doigts n'en sauraient compter.
Comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne. La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne. Gagne ton ciel et me sois bonne. Ma jouvencelle, ma mignonne.
Ça vous plaît, David Elbaz, apparemment, ça?
Oui, hein, j'aime beaucoup.
Eh bien, elle s'appelle Mera Andrade. Voilà, retenez son nom, avec Comme si l'on pleuvait.
France Inter. La Terre au carré.
Et il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait.
Gargantua? Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui.
Celle de Miller est sur son horizon?
Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir.
Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer.
Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale.
Annoncez la couleur.
Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... cette année sur notre vieille Terre.
Non, non, j'ai...
Bah quoi, les amis, c'est la relativité?
Quel vertige interstellaire. Ça, c'est pour le plaisir, hein, Christopher Nolan, en 2014, David Elbaz, livre, film, que vous citez dans votre livre, justement. Mm-hmm. Pour parler aussi du paradoxe, hein, finalement, parce que depuis le début de l'émission, vous nous dites que la lumière, il y a cette autoréplication, donc il y a de plus en plus de lumière dans l'univers. Mm-hmm. Et puis, il y a quand même des objets comme les trous noirs, mm-hmm, et puis la matière noire ou l'énergie, mm-hmm, noire, qui tendraient à nous prouver le contraire, quand même. C'est parce qu'ils n'émettent pas de lumière.
C'est vrai qu'on pourrait se dire, et même, ils peuvent manger des étoiles.
Ouais.
Et pourtant, les sources de lumière les plus puissantes dans l'univers, les quasars, qui font 1000 milliards de fois la lumière du Soleil, ont en leur centre, comme source d'énergie, un trou noir.
Ouais.
Et donc déjà là, ça montre bien que ce sont des acteurs qui font de la lumière. Et alors, l'évaporation des trous noirs, qui est un mécanisme complexe, mais acceptez l'idée, eh bien, cette évaporation des trous noirs transforme le vide quantique, en lumière. Ça veut dire qu'un trou noir, c'est une machine à faire de la lumière à partir de rien. Donc c'est encore plus fort pour faire de la lumière. Et à la fin, il se transforme entièrement en lumière en explosant.
Ouais.
L'article d'Hawking, c'est « Black Hole Explosions ». Donc, moi aussi, j'ai la même réaction que vous.
Les composantes sombres, finalement,
oui,
aident à la prolifération de la lumière.
Oui, tout à fait. Ça m'a surpris, personnellement.
Ouais. Ben nous, si ça nous surprend.
Elisa nous demande sur franceinter.fr si vous pouvez expliquer rapidement les molécules lévogyre et dextrogyre qui renvoient différemment la lumière.
Oui, tout à fait. En fait, c'est Pasteur qui avait découvert ça. Il y a deux symétries comme la main droite et la main gauche qu'on appelle la chiralité. Keir en grec, ça veut dire la main. Et notre acide, l'ADN, par exemple, les acides aminés sont faits de molécules qui sont uniquement gauches. Et si c'était pas le cas, la molécule ne pourrait pas se plier sur elle-même. Eh bien, on pense une des explications, ça viendrait du fait qu'il y a une favorisation d'une certaine symétrie dans l'espace, du fait de la lumière qui est polarisée dans les pouponnières d'étoiles et qui pourrait suggérer que nos molécules viennent de l'espace. Et donc que la recette de la vie commence dans le ciel.
Ben nous sommes des enfants de l'espace, enfin nous sommes...
Tout à fait. Mais la question, c'est ça serait que la recette commencerait peut-être même, pas seulement les atomes, mais même les molécules complexes, ouais, commenceraient dans le ciel.
Ah oui, après la mort, tiens, qu'est-ce qui va se passer alors de nos corps, justement? Vous dites que ça va se disséminer partout sur Terre.
Oui, alors ça c'est vrai que c'est rigolo. Quand on fait le calcul, la dissémination d'un corps d'un être vivant, ou par exemple Cléopâtre, est telle qu'il y a tellement d'atomes dans un corps humain que nous avons tous à peu près 10 millions d'atomes qui ont appartenu à Cléopâtre,
wow,
à Shakespeare et à Jean-François, qui était un paysan... on ne connaît pas du tout, c'est mais ça, dont on a des atomes.
Bon, bah, c'est formidable. Et on va terminer par un petit message sympathique pour vous.
Oui, Fabienne qui nous écrit « Je trouve passionnantes les approches, les analyses et les questionnements de David Elbaz. Son humilité, on ne peut pas tout comprendre ni expliquer, mais continuer à chercher et questionner me donne plus encore envie de lire son livre. Moi qui ai toujours été une quiche en physique et chimie, nous dit-elle. »
Bienvenue au club. Bienvenue au club des quiches.
Merci pour ce témoignage.
Voilà, bah, ce livre s'appelle « La plus belle ruse de la lumière. Et si l'univers avait un sens », livre que vous signez donc chez Odile Jacob David Elbaz et qui nous permet de rencontrer plein de grands personnages justement qui ont écrit aussi cette histoire de l'univers.